Bonsoir, bienvenue dans cette émission Dialogue de Luanda. Une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo est attendue à Luanda, en Angola, ce mardi 18 mars. Les émissaires de Kinshasa vont répondre à l'invitation du président angolais João Lourenço, qui propose d'ouvrir des négociations directes entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Le président angolais, en sa qualité de médiateur dans la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue l'Est de la RDC, a pris l'initiative de réunir les parties en conflit. L'objectif de ces négociations est d'aboutir à une cessation des hostilités et de poser les bases d'une solution durable au conflit. Pour l'instant, la composition de la délégation du gouvernement congolais et son cahier des charges n'ont pas été officiellement dévoilés selon l'agence congolaise de presse. Quelles sont les chances de réussite de cette démarche? C'est l'objet des débats de ce soir. Et nous recevons dans cette émission professeur Moïla Tchiembe. Il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France et spécialiste en relations internationales. Bonsoir professeur Moïla Tchiembe. Voilà, on me signale qu'il n'est pas encore là. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala.
Oui, bonsoir Sergio Mathieu, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Et Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand en Belgique. Il est chercheur congolais basé au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine. Bonsoir Josaphat Moussamba.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi. Je voudrais préciser que je suis aussi membre du groupe d'experts Mayel Institute.
Merci beaucoup pour la précision. Merci une fois de plus, bienvenue dans cette émission.
Envoyez vos réactions à tech@radiookapi.net.
Voilà, nous parlons ce soir de ces négociations directes entre les gouvernements congolais et la rébellion du M23 AFC qui doit commencer en principe demain à Luanda, en Angola. Mais à la dernière minute, nous apprenons que le M23 vient, n'est-ce pas, de décider de son retrait de ces dialogues. Et pour plus de précisions, on va écouter les explications de Martial Papi Mukeba, qui est en direct ici dans ces studios, que nous recevons, alors qu'il devait déjà être à Luanda, n'est-ce pas, pour couvrir ces dialogues. Bonsoir, Papi Martial Mukeba.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs des radios Okapi.
Et quel est le dernier développement?
En tout cas, nous venons de l'apprendre. L'alliance Fleuve Congo AFC M23 vient d'annoncer ce lundi 17 mars 2025 son retrait des négociations prévues à Luanda en Angola. Dans un communiqué officiel publié ce soir, les mouvements rebelles accusent certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix en RDC en imposant des sanctions à ses membres, y compris à la veille des pourparlers. Alors, selon l'AFC M23, ces mesures compromettent gravement les dialogues. Les groupes rebelles dénoncent également l'intensification des opérations militaires menées par les FARDC, notamment à travers les attaques terrestres et des bombardements aériens impliquant des avions de chasse et des drones de combat. Alors, dans ces conditions, l'AFC M23 dit que la tenue des négociations est devenue impossible et affirme ne plus pouvoir poursuivre sa participation aux discussions. Pourtant, il faut le préciser, il y a quelques heures plus tôt, le M23 avait annoncé sa participation aux négociations directes avec le gouvernement congolais et qui devrait s'ouvrir ce mardi à Luanda. La délégation rebelle devait être dirigée par Benjamin Bonipa, secrétaire permanent du M23, et était composée de 5 membres. Il est à noter qu'il y a 12 ans, Benjamin Bonipa avait activement participé à d'autres négociations entre le M23 et le gouvernement congolais à Kampala, en Ouganda, et il serait considéré par la rébellion comme l'un de ses cadres disposant d'une expertise dans les processus de négociation. Alors, tout ce qu'on peut dire, ces revirements interviennent alors que les pourparlers de Luanda étaient perçus comme une opportunité majeure pour désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays depuis près de 3 ans, à voir ce que sera la réaction de la médiation et les efforts diplomatiques régionales et sous-régionales pour amener toutes les parties en conflit sur la table des négociations. Merci Guy Maté.
Merci à vous, Papi Martial Mukeba, pour ces précisions. On va vous libérer, n'est-ce pas, pour vous occuper de vos tâches. Professeur Moïla Tchiembe, j'espère qu'il est là.
Oui, je suis là. Voilà. Je suis là, je vous écoute.
Bonsoir, on n'a pas eu l'occasion de se saluer. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de l'ANSI en France. Vous êtes spécialiste en relations internationales. D'abord, par rapport à ces derniers développements que vient de nous d'évoquer ici Papi Martial Moukeba, notre collègue qui devait déjà être à Luanda ce soir, n'est-ce pas, pour couvrir ces négociations qui, en principe, devraient commencer demain. On apprend que le M23 vient de décider de se retirer, n'est-ce pas, de ces processus. C'est quoi votre réaction, professeur Moïla Tchiembe?
Mais disons que si les informations de dernière minute qui viennent de nous être communiquées étaient les vraies, ce serait une dérobade tout à fait regrettable. Pourquoi? Parce que voici 2 mois que le M23 exigeait le dialogue avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Sur votre micro, nous avions supplié le président de la République de bien vouloir accepter de négocier ou de dialoguer avec ces Congolais de telle manière que, devant la nation et devant le monde, les Congolais qui ont pris les armes contre leur propre pays avec un État étranger puissent dire à tout le monde qu'est-ce qui les a poussés à cet extrémisme d'aller solliciter le concours d'un État étranger fut-il pour défendre leurs intérêts. Et quels sont ces intérêts? Qu'est-ce que le 23 demande en réalité à la République démocratique du Congo, puisque la majorité, sinon les représentants du 23, disent qu'ils... Alors, s'ils sont Congolais chiches, c'est leur droit naturel de pouvoir dire, après avoir porté atteinte à l'honneur, à l'intégrité territoriale de leur propre pays, quel est le mobile. L'Arcebispe nous a appris que la guerre n'est que la politique menée par d'autres moyens. Alors, quelle est cette politique que mène le M23 en sollicitant un État étranger, en l'occurrence le Rwanda, pour défendre quel intérêt?
Il y a en même temps, je m'excuse professeur, il y a en même temps quelqu'un qui est en train de parler, je ne sais pas si c'est Josaphat. Pendant que le professeur parle, Josaphat apparemment il intervient aussi. Oui professeur, allez-y professeur.
Oui, je voulais dire que la montagne accoucherait d'une souris, parce que tous les reproches, tout ce que le M23 avait à dire, c'est que le gouvernement congolais ne veut pas nous rencontrer. Nous sommes congolais de bonne foi. Nous avons des choses à dire au pays et expliquer pourquoi nous avons été obligés d'utiliser les armes. Alors, si à la dernière minute, à quelques heures du moment où les Congolais et le monde entier voulaient savoir exactement quels sont le but de guerre, pourquoi le M23 est-il obligé de massacrer d'autres Congolais, de tuer les femmes et les enfants, pour justifier quel intérêt? C'était pour la première fois l'occasion donnée au M23 de dire au monde entier quels sont ses objectifs de guerre. Qu'est-ce que le M23 souhaiterait que le gouvernement congolais fasse pour la fusion de...
Merci.
Alors, si ces informations étaient vraies, ce serait une dérobade extraordinaire. Parce qu'en ce moment-là, vous avez entendu le discours du président Kagame, hier, accusant la communauté internationale d'avoir, notamment la Belgique, d'avoir pris le commandement des sanctions ou d'avoir incité les autres pays aux sanctions. Or, nombreux avions déploré le fait que la communauté internationale s'était fermé les yeux devant les malheurs des Congolais, les massacres des Congolais, et que si les sanctions commencent à tomber petit à petit, et que ceux-là même qui ont pris la décision de la guerre à la dernière minute ont peur de dire à leur propre pays et au monde pourquoi ils ont pris les armes, alors qui parlera en leur nom?
Merci, professeur.
Parce que le Rwanda a dit, moi je refuse le dialogue tant que le gouvernement congolais ne prend pas la main du M23.
Merci.
Et maintenant, c'est le M23 qui refuse le dialogue, à moins que le M23 considère que il renvoie la balle au gouvernement du Rwanda de discuter directement avec le gouvernement congolais, ce que le gouvernement congolais n'avait essayé de revendiquer contre vents et marées. Et
merci.
À ce moment-là, ce serait probablement quelque chose de tout à fait regrettable.
Merci.
Parce que,
merci, professeur.
Comme vous le savez, en matière de stratégie, il est facile de prendre une ville par dérobade. Quelques individus peuvent prendre une ville. Mais le plus important en matière de guerre, c'est l'administration, le gouvernement des villes.
Merci, professeur.
Parce qu'en ce moment-là, tout le monde sort du bois. On verra la tête de ceux qui gouvernent.
On a compris,
sont-ils congolais? Sont-ils étrangers? Qu'est-ce qu'ils parlent comme langue?
Merci.
Qu'est-ce qu'ils ont comme politique pour les provinces ou les villes conquises? En ce moment-là, comme le diable est dans le détail, le pays réel verrait si ce sont les Congolais qui ont mené la guerre ou ce sont les étrangers sous le couvert du M23.
Merci, on a compris. Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Vous également, hein, votre réaction par rapport à cette décision qui vient de prendre le M23. Le M23 évoque des sanctions, n'est-ce pas, qui sont imposées contre lui par la communauté internationale, ainsi que l'intensification des combats sur le terrain pour justifier son retrait de ces processus de Luanda. C'est quoi votre réaction, Henri Pacifique Mayala?
Voilà, cher Maté, nous voici parti de Charité Angela, parce que s'il faut réagir à chaud, en gardant la tête froide, quelque part, je pense qu'il ne faudrait pas se conforter dans une seule position, dans le risque, avec le risque de ne pas voir l'entièreté de la situation. Aujourd'hui, nous avons vu quand même le mouvement rebelle faire preuve de bonne foi, si nous pouvons le mettre dans cette de cette façon-là. Et à la dernière minute, il y a ces sanctions de l'Union européenne qui viennent de tomber et qui, d'une certaine façon, expliqueraient leur position. La question qui se pose, c'est pourquoi ces sanctions-là, pourquoi maintenant? D'autre part, quelles étaient les chances accordées à ce dialogue de dernière minute? Et peut-être une autre question de surplus supplémentaire serait pourquoi avoir attendu aussi longtemps du côté de notre gouvernement pour aller négocier? Malheureusement, sur le terrain, ce sont les populations locales qui vont continuer à souffrir avec cette situation où l'insécurité continue à battre son plein dans les deux villes sous occupation de rebelles, des villes qui au départ auraient dû être protégées par le gouvernement et qui n'a pas été en mesure de les protéger. C'est triste de voir que nous en arrivons là. Le moindre lueur d'espoir qui commençait quand même à se disponibiliser est en train de s'échapper. Et donc, pour moi, je dirais que nous sommes tous pris de court, mais je n'aimerais pas prendre parti, dire que certaines personnes n'ont pas voulu négocier, alors que d'une certaine façon, on pourrait bien mettre à leur actif ce semblant de bonne foi qui a toujours rencontré le manque de flexibilité de la part de l'autre partie au conflit. Et malheureusement, voilà que nous sommes de retour sur le gordien qui va encore malheureusement prendre beaucoup de temps pour qu'il y ait une issue qui se dégage.
Merci.
En attendant, je pense qu'il faudrait continuer à accorder à la paix, la chance de pouvoir trouver un chemin. je pense que nous avons une alternative encore sur la table avec l'initiative des églises protestantes et catholiques. Je pense que nous devrions continuer sur l'élan à exploiter maintenant cette volonté du gouvernement à pouvoir se mettre sur une table dans un format congolo-congolais qui, dans un premier temps, ne prendra pas en compte les acteurs extérieurs. Merci. Certes, on ne va pas régler cette crise en se concentrant que sur ce dialogue direct, mais de plus en plus, nous sommes en train d'observer que c'est un préalable et pas le moindre. Donc, pour moi, je pense que tout n'est pas perdu. Essayons de garder la tête froide pour essayer de voir comment la semaine se développe. Déjà que l'annonce de la tenue de ce dialogue direct est venue comme une grosse surprise. Donc, j'aimerais rester encore sur ma réserve, observer, et en tout cas, s'il y a des chances à accorder la paix, je pense qu'il y a des alternatives, dont notamment l'initiative du pacte social proposé par la CINCO et l'FCC.
Merci, Josaphat Moussamba, doctorant à l'Université des Gand en Belgique. Vous êtes chercheur congolais basé au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Et à votre avis, jusqu'où peut aller le M23 dans cette logique de boycotter ces dialogues de Luanda? Allô, Josaphat? Voilà, apparemment, il n'est pas en ligne. Professeur Moïla Chiembe, s'il faut revenir, n'est-ce pas, sur ces dialogues qui étaient prévus demain à Luanda, on sait que le président João Lourenço s'était récemment désengagé du processus du mécanisme de Luanda, mais curieusement, c'est lui qui a pris l'initiative de ces dialogues directs. Il a même fixé la date et même le cadre. Et comment vous expliquez ces faits-là? En quelle qualité le président Lourenço, João Lourenço, prend l'initiative de ces dialogues? Professeur Moïla Chiembe.
Je n'ai pas bien compris votre question.
Je disais ceci, s'il faut parler... s'il faut parler de la qualité des médiateurs. Donc le président Lourenço, on sait que récemment il s'est désengagé, n'est-ce pas, du processus de Luanda. Mais curieusement, c'est lui qui a pris l'initiative de ces dialogues directs. Il a même fixé la date. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est en quelle qualité le président Lourenço a pris cette initiative? Parce qu'il n'est plus médiateur, n'est-ce pas, du processus.
Je pense que il n'y a pas de directive de pouvoir critiquer le président de l'Angola. Il était quasiment le seul à défendre la thèse de la République démocratique du Congo et souhaitait que la crise angolaise, la guerre cesse et que le sang qui coule de Congolais cesse également de couler. Il a fait ce qu'il a pu, avec moins de soutien de la communauté, il faut l'avouer. Aujourd'hui, c'est lui le président de l'Union africaine, puisqu'il connaissait bien le dossier. Si vous suivez bien le président Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui ne parle pas, a osé parler. Et il a dit, lui aussi, souhaitait que les négociations puissent avoir lieu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Qu'est-ce que le président Kagame a dit hier? Lui aussi souhaite que les deux processus étant réunifiés, que Luanda soit l'occasion d'aller plus loin pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis longtemps. Tous les Congolais, quelles que soient les provinces où ils se trouvent, tout le monde a su la décision du gouvernement d'accepter in fine de pouvoir lutter avec le 23. Pourquoi? Comme nous le disions une fois, qui peut le plus, peut le moins. Le président de la République est le garant de la nation. En tant que garant de la nation, il est la dernière personne à regarder où va l'intérêt de la nation. Faut-il que les provinces, une à une, soient prises par la rébellion, les morts s'enchaînent, le sang continue à couler? Non. Quelle que soit la raison d'État, nous avons supplié le président de la République de savoir raison garder en lui disant qu'il ne perdait rien à sa qualité de garant des nations, d'écouter même les collègues qui ont fait le sang contre le public,
professeur Moïla
Chiembe, de mettre ces Congolais au pied du mur afin que eux-mêmes.
Professeur, votre ligne est en train de se détériorer.
De
hein.
Cette guerre.
Essayez de bouger un peu, professeur.
Par conséquent, le président engraine la main.
Allô, professeur. Professeur Moïla Chiembe.
Qui a cette habilitation.
Professeur Moïla Chiembe.
Parce que les deux processus ayant fusionné, je pense qu'on ne peut pas discuter de l'opportunité ou de la qualité du médiateur. Jusqu'à l'heure qu'il est, il n'a pas été pris à défaut ni l'intérêt de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine qui les défendait, ni à sa volonté de voir le gouvernement négocier avec le 23.
Professeur Moïla. Professeur Moïla. Allô, professeur Moïla. Nous avons du mal à vous écouter, hein. La ligne est en train de se détériorer. Essayez de bouger. Bougez un peu ou alors
bah,
vous sortez de l'endroit où vous êtes, si c'est dans une maison.
Dans des conditions difficiles de communication, je répète ce que je disais tout à l'heure. Vous m'avez demandé si on pouvait douter de la qualité du président angolais qui est le médiateur. Je répondais qu'il n'y a pas de raison particulière de douter de la médiation du président. Pourquoi? Parce que ça fait deux mois qu'à son corps défendant, seul, quasiment, il a défendu la cause de la République démocratique du Congo et demandé au président congolais de négocier, soit avec le Rwanda, soit avec le M23. Lorsqu'il s'est révélé que probablement la voie la moins difficile serait l'association entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la rencontre a été prévue à Luanda entre le président Kagame et le président Tshisekedi. À la dernière minute, le président n'est pas venu pour des raisons.
Professeur, on essaie de vous rappeler, hein. On va essayer de vous rappeler parce que votre ligne s'est considérablement détériorée. Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire de Kivu. Cette question, n'est-ce pas, sur la qualité du président Lourenço, est-ce qu'il faut la minimiser? Est-ce qu'elle ne pourrait pas influer sur la suite de ces négociations?
Je pense que oui, parce que déjà, si Luanda dans son format initial échoue, d'une part, c'est parce que l'un des partis au conflit, le Rwanda, a ouvertement récusé le médiateur. Et aujourd'hui, nous avons un format qui, plus ou moins, se présente comme étant un format privilégié, c'est-à-dire la fusion de processus du Rwanda et de Nairobi. Je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup trop se précipiter à fêter la victoire et rester plutôt sur la prudence, parce qu'après, on ne sait pas exactement comment ça risque d'évoluer. On a vu que c'était déjà sur à une bonne allure et le 15 décembre, tout est tombé à l'eau. Et on a observé tout cela durant les deux processus. Chacune de parties au conflit essayait de privilégier le processus qu'il estimait le le médiateur être proche de ses intérêts. C'est comme ça que Kinshasa privilégiait beaucoup plus le la médiation sous le président Uhuru Kenyatta, qui a toujours été proche du président Félix depuis l'initiation de la coalition CASH. Et on a vu que du côté de Luanda, le président Kagame n'a jamais été assez confortable avec cette médiation, qui d'une part pourrait se justifier par les ambitions de leadership politique régional et hégémonique sur la région de l'Afrique centrale. Mais je pense que oui, plus tard, on risque de faire face à des difficultés relatives à la nature du médiateur en question. Et d'où je pense qu'il faudrait essayer de jongler avec les deux, ne pas mettre tous les œufs dans un même panier, au risque d'être surpris de la même façon que nous l'avons été le 15 décembre.
Merci. Merci, Josaphat Moussamba. On me signale qu'il est là. Josaphat Moussamba, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà.
Suis
donc, là, donc quand on vous a perdu, je vous posais la question de savoir, ça c'était par rapport, n'est-ce pas, au revirement, n'est-ce pas, les derniers revirements avec les M23 qui vient de boycotter ces dialogues de Luanda. Je vous posais la question de savoir jusqu'où pourrait aller les M23 dans sa logique de boycotter ces dialogues.
Alors, merci beaucoup pour m'avoir associé dans ce débat. Jusqu'où pourrait aller les M23 pour boycotter les dialogues? J'ai écouté une partie de l'intervention de Henri. Je n'ai pas écouté le professeur Moïse Atiyembe que j'ai fallu. Mais je pense plutôt que, comme Henri a dit, moi si je vais dire, les sanctions, comme ils viennent de le dire dans leur déclaration, des sanctions. Ils disent aussi les attaques contre les drones, contre leur position par les drones CH4. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'Henri n'a pas pu dire, parce que aussi, de la perspective des membres du M23-AFC, il est important de dire que bien que les revendications du M23 soient des autorités publiques, parce qu'on les connaît et ils les disent chaque jour, mais il n'est pas exclu que ces revendications soient réadaptées au contexte actuel, qui prend en compte, si vous voulez, le fait que le M23 soit associé avec deux organisations politiques, militaires et sociales, dans leur plateforme dénommée AFC. Et on peut voir dans l'invitation qui a été faite à Bertrand Bissimwa que, voilà, la partie des autres alliés, c'est comme si le médiateur ou l'Angola n'a pas pu tenir compte de cela. Et je pense que cela peut être aussi un des éléments qui n'ont pas été adressés dans leur communication. Je crois que ça, c'est aussi important de regarder comment le médiateur angolais pourrait ajuster ces questions. Malheureusement, ce qui est important est de noter que la plupart la plupart d'acteurs politiques et militaires du M23 sont soit sous sanctions l'Union européenne, sanctions américaines, soit ils sont aussi poursuivis par la justice congolaise, et d'autres aussi sont radiés par l'armée. Et ça, c'est des éléments assez importants, je crois, qu'il faille mettre en liste pour expliquer pourquoi, en fait, ces revirements, cette prise de position, ou alors des dernières minutes. Cependant, j'estime que, pour une fois, je ne serai pas d'accord avec le professeur Maïla, pour la simple raison que depuis 2021, à la résurgence du M23, 2022, eh bien, il y a des positions qui ont fait à ce que, voilà, la position nationale ne considérait ces groupes comme des terroristes. Ce qui est sûr, c'est une position nationale, on s'y oppose pas. Par contre, lorsqu'on regardait la gouvernance rebelle que ce groupe mettait dans les zones qu'il contrôlait, et on pouvait voir la différence avec les EDF. Mais comme c'est au nom de l'intérêt national, on proclame un groupe terroriste. Là, allez. Finalement, tant bien que mal, on a trouvé par compromis que la médiation angolaise, qui est à saluer, a fait à ce que qu'arrive à mener Kinshasa à accepter de discuter. Parce que c'est aussi important, discuter, échanger pour savoir quelles sont alors les revendications du M23? Au-delà de ce que le M23 AFC a souvent à parler, donc quelles sont les revendications? Et de ce point de vue, les discussions vont faire en sorte que les deux parties savent effectivement qu'est-ce qui se reproche les uns des autres et comment trouver une alternative. Ça, c'est un. Mais finalement, aujourd'hui, si la partie congolaise, on ne connaît pas ce qui était désigné, mais on connaissait déjà ce qui était désigné du côté du M23, finalement, ils disent qu'ils ne vont pas participer. Cependant, il y a un autre élément qui est dans la déclaration du M23, que je ne dis pas que je ne partage pas. Je trouve ça un peu plus étrange, parce que si on regarde ce qui se passe au terrain aussi, que ce soit au sud Kivu, que ce soit à Walikale, on peut voir qu'il y a aussi des avancées qui sont faites du côté des forces, l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée du M23, et elle avance aussi dans certaines positions comme Walikale. Elle avance dans certaines positions où il y a des attaques avec ce qu'ils appellent forces coalisées, ou alors les autres groupes armés qui résistent contre la percée, l'avancée du M23. Donc, bien que, voilà, ils remettent en cause les attaques des drones PH4, mais il y a d'autres théâtres des opérations où les M23 aussi attaquent les Congos. Bien que aussi, pour ajouter, on a demandé aujourd'hui, c'est le 17, il y avait un cessez-le-feu que le médiateur angolais, je pense, aurait proclamé. Eh bien, tous les partis ne respectent pas ce cessez-le-feu. Cependant, il y a encore des fenêtres d'opportunité. Déjà que des dialogues essayent de Kinshasa ouvre cette possibilité, et moi je salue cette décision de Kinshasa, qui a une évolution, et que le M23 aussi soit apte à venir dans les négociations, parce qu'on continue, on va pas continuer et à clamer que nous avons demandé les négociations, Kinshasa a refusé. Finalement, Kinshasa accepte avec aussi le Conseil de l'Angola. Donc, le M23 devrait venir dans les négociations. Et je pense qu'ils vont venir aussi, hein. Et si et seulement si, je pense, on tient compte du fait que ce n'est pas forcément le M23. Par exemple, est-ce qu'on a appelé aussi les MDRP Tuganeo, MRDP Tuganeo, parce qu'ils font partie de cette l'Alliance Fleuve Congo, et d'autres qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on a tenu compte de ces invitations-là? Et je pense que c'est important que les médiateurs aussi recontactent les M23 pour discuter de ces revirements et regarder comment peut-être postposer ou programmer une autre date. Parce que ce qui est important, les passerelles sont déjà mises là, les ponts sont posés, comme on peut le dire, mais comment alors amener ces parties à rentrer? Et je crois que l'option aussi, pour finir du matin, de l'Ouganda, si le président angolais peut contacter l'Ouganda, de manière à ce que ça ne va pas faire amener le M23 à rentrer, mais persuader le M23 de la pertinence et de l'opportunité à venir dans les discussions.
Merci. On me signale que nous avons beaucoup d'auditeurs qui sont en train de vouloir intervenir. Et là, nous allons partir à Mbujimayi. Professeur Moïla Tiembe, vous êtes là?
Oui, je vous écoute, Guimaté.
Voilà, nous allons partir à Mbujimayi pour écouter cet auditeur qui appelle. Et vous allez réagir à son intervention, professeur Moïla Tiembe.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à l'instant. Maître Emmanuel depuis Mbujimayi. Nous disons d'emblée qu'il faut noter que ce dialogue n'aura pas un bon ici, du fait que les réclamations faites par les uns et les unes sont diamétralement opposées. La grande question aujourd'hui que nous nous posons est celle de savoir qui d'entre les deux parties fera une grande concession à ces assises, raison pour laquelle nous restons encore pessimistes et nous disons que ce dialogue pourra nous prendre encore trop de temps. Nous risquerons encore de connaître un deuxième dialogue, raison pour laquelle pour nous, nous estimons que le président angolais devrait d'abord récolter les cahiers des charges de chacune des parties. Deuxièmement, les étudier, puis les convoquer au dialogue. Nous craignons beaucoup avec cette façon de procéder que ces dialogues connaissent un fiasco.
Professeur Moïla Tchiembe, déjà les auditeurs s'étaient en train de... En fait, ils se posaient déjà la question de savoir si les choses allaient marcher, parce qu'il y avait beaucoup, n'est-ce pas, apparemment beaucoup de doutes. Et est-ce que les derniers développements de ces processus avec les retraits du M23 ne donnent pas raison à cet auditeur qui nous appelle depuis Mbujimayi?
Non, je pense qu'il y ait une inquiétude dans l'esprit des Congolais, comme jadis dans l'esprit du gouvernement, de tomber dans le guet-apens, c'est tout à fait normal. L'histoire diplomatique a montré que, à la veille de dialogue, les belligérants montent les enchères, parfois relancent des activités militaires d'affrontement juste pour monter les muscles et se placer. Mais en réalité, le M23 était demandeur du dialogue. C'est le gouvernement de la République, à travers le chef d'État, qui considérait, à tort ou à raison, qu'il n'était pas acceptable à ce niveau que ce dialogue puisse avoir lieu directement avec lui. Pourquoi? Il avançait l'idée que si, toute chose étant égale par ailleurs, on accepte que dans le M23, il y a des Congolais, le président de la République ne comprenait pas pourquoi les Congolais qui peuvent, une fois reprocher quelque chose à leur pays, allaient demander le concours d'un État étranger, le Rwanda, et lui demander de négocier avec un pays étranger. Alors, le fait que le gouvernement anglais ait réussi avec le reste de la communauté internationale, il faut le dire, que ce soit les derniers venus, les États-Unis, l'Union européenne, les pays qui ont pris des sanctions, les pays africains de la SADC, comme ceux de la communauté économique de l'Est, tous demandent le dialogue. Il n'y a pas une seule communauté d'État qui n'ait pas demandé au gouvernement de la République démocratique du Congo de bien vouloir négocier avec le M23. Par conséquent, exiger que le président angolais, en tant que médiateur, puisse exiger un cahier de charge du M23, le disséquer et voir s'il était bon ou s'il est mauvais, il serait partie prenante à la discussion. Or, le médiateur n'est pas partie prenante au débat. C'est tout à fait normal qu'il ait laissé la balle dans le camp et de la République démocratique du Congo, le pays dont se réclame le M23 comme Congolais, et le M23 lui-même et ses alliés pour pouvoir dire au moins pour la première fois depuis bien longtemps quels sont les objectifs militaires poursuivis et pourquoi le sang des Congolais coule. Qu'est-ce que le M23 souhaite récolter de tout ça? C'est tout à fait légitime. Même si, au départ, le M23 hausse le ton ou ajoute telle ou telle chose, c'est tout à fait normal. Avant la négociation, il y a la montée des enchères. C'est dans le débat qu'on pourra critiquer chaque projet ou chaque alternative et montrer probablement sa vacuité pour aller à des choses essentielles.
Merci. Merci Henri Pacifique Mayala. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kinshasa.
Alphonse Tefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que le président angolais avait déjà renoncé à sa qualité de médiateur de la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. En quelle qualité il a entamé les initiatives des dialogues entre la RDC et le M23? C'est une erreur grave de la part du gouvernement congolais d'accepter de négocier directement avec le M23 dans un autre cadre que celui de Nairobi. C'est une manière de légitimer et crédibiliser le M23 en lavant le Rwanda de tous les crimes odieux qu'il est en train de commettre à l'est de notre pays. Ce qui est grave, c'est fait sur la vie des innocents. Le président Félix Tshisekedi a accepté de négocier avec le M23 pour sauver son pouvoir et non pour la paix. Parce que qu'est-ce qui a changé entre je ne négocierai jamais avec les pantins et une coquille vide? On va se battre, mais pourquoi il ne s'est pas battu?
Henri Pacifique Mayala, votre réaction?
Ben, ça me fait plaisir d'avoir ces éléments-là de la part d'un compatriote qui nous suit. Je suis parfaitement d'accord avec lui et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés sous contrôle de l'AFC M23, cette crise elle a cessé d'être un défi sécuritaire. Nous sommes désormais dans une dimension de crise politique majeure qui impacte en quelque sorte aussi sur le régime du président Félix. Aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir central qui est assez fragilisé. Nous sommes partis des rhétoriques du genre qui pourrait interdire à moi, garant de la nation, faire une certaine doléance du genre Félix ne doit pas démissionner. Et je pense que tout cela a pris, ça a pris beaucoup de temps, qui malheureusement n'a pas joué en faveur du président Félix. Aujourd'hui, je suis d'accord avec le compatriote qui vient de réagir que si le président Félix a finalement accepté d'aller négocier, d'une part, c'est pour sauver aussi son pouvoir. Nous avons un président qui, sur la forme, toutes les rhétoriques développées durant les période électorale sur un président conquérant qui malheureusement nous sommes rendus compte que nous n'avions qu'une armée qui pouvait défendre les villes qui ne sont pas le moindre. Bukavu et Goma représentaient plus ou moins plus de 50% de la défense à l'est du pays. Aujourd'hui, il y a cette crise politique qui non seulement aussi fait susciter des opinions que d'une certaine façon on n'avait pas entendues, comme le disait le prof à un moment donné, où le président Kabila ressurgit, une opposition qui, quoique marginalisée au niveau de l'Assemblée nationale, essaye aussi de se reconstruire. Donc je pense que ça se dicte malheureusement à la dernière minute. Ça ne joue pas en faveur du président, parce que aussi sur le terrain, le M23 se retrouve en train de conquérir les territoires. Et tout cela, ça sert de levier une fois autour de la table. Moi, je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Malheureusement, la situation n'est pas assez idéale, mais aussi d'autre part, le président, il n'a pas assez de marge de manœuvre.
Ok, merci. Joseph Atmoussamba, vous réagissez aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bounia dans l'Ituri.
Allô, c'est Pianche Merveille. Je vous appelle à partir de Bounia en Ituri. Le dialogue prévu entre le gouvernement congolais et les groupes armés rebelles M23-AFC pourrait bien ne pas aboutir à des résultats concrets, tant les divergences entre les partis semblent profondes. Enfin, les tensions historiques, les messias mutuels et les intérêts divergents rendent difficile toute perspective de compromis. Il est probable que les discussions se heurtent à des positions intransigeantes conduisant à une impasse. De plus, le manque de confiance dans les processus pourrait inciter l'une ou l'autre partie à utiliser ces pourparlers comme un simple écran de fumée pour poursuivre des actions militaires sur les terrains. Sans une véritable volonté politique et un engagement sincère de chaque côté, ce dialogue risque de ne rien changer à la situation sur les terrains, laissant la population dans les certitudes et la peur d'une escalade des violences.
Josaphat Moussamba.
Oui, je suis d'accord avec une partie de la question de l'auditeur, mais je pense plutôt que je ne partage pas son scepticisme. À partir du moment où cela fait déjà 4 années, on est en train d'aller vers la 4e année, depuis 2021 à la résurgence jusqu'à aujourd'hui 2025, c'est une partie dans ce conflit revendiquait d'abord une reconnaissance qu'il n'était pas un groupe terroriste et l'autre qui rejetait ces dialogues. Maintenant que les deux parties, à travers l'Angola, devraient se parler, c'est déjà pour moi une occasion que tout le Congolais, surtout ceux de l'Est du Congo et celui de Bounia, devrait déjà capitaliser. Ça, c'est un. Deux, je suis d'accord avec lui sur est-ce qu'on peut profiter des négociations pour avancer de position. Ça aussi, c'est possible parce qu'on peut le voir. Et c'est pour ça que les inventeurs, je vis, ils sortent le communiqué. Mais le gouvernement de Kinshasa aussi ne devrait pas non plus venir dans les négociations et laisser ses positions à la merci ou bien à la portée de la rébellion. Ça, c'est aussi une partie de la question où je partage avec lui. Par contre, pour moi, il y a des éléments assez importants que l'auditeur devrait comprendre. C'est que ce dialogue ou cette discussion devrait être le moment où Kinshasa est entré dans le fin fond des revendications que pose les M23 et alors les vraies revendications. Parce que souvent, ce qu'on entend, qui sont communiqués, il y a quand même des revendications assez individuelles pour les leaders de la rébellion. Et non seulement ceux qui disent, voilà, on devrait être en mesure d'en parler. Et moi, je suis sûr et certain qu'ils auraient pu parler de l'avenir de tous ces leaders des rébellions, parce que c'est des questions qui doivent être parlées.
Et ça, donc pour vous, il devait y avoir des préalables, notamment des garanties de sécurité de certains membres de la rébellion.
Oui, mais je pense qu'à partir du moment où l'itinéraire, quand vous lisez l'ordre de mission, je pense, qui a été signé par les leaders de l'AFC M23, vous voyez qu'ils quittent Goma, Kisoro, Luanda, et ils retournent dans la même voie. Ça, c'est déjà une garantie de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer par Kigali, ils passeront pas par un autre pays, ils passent par l'Ouganda. Et ça, c'est assez important de comprendre le rôle que, en fait, le président Museveni peut jouer à persuader les leaders des M23 à retourner, à rentrer sur la table de négociation, à aller effectivement discuter avec Kinshasa. D'autres garanties, c'est que est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont être arrêtés s'ils voient une partie en Angola? Je pense que l'Angola donnait des garanties en acceptant d'organiser cette discussion sur son territoire. Il va donner le garantie à des rebelles qui vont venir, qui ne seront pas arrêtés. Malheureusement, les sanctions, moi je pense que les sanctions européennes tombent, c'est une coïncidence. Ça ne veut pas dire qu'ils attendaient aujourd'hui, c'est une coïncidence. Ils ne voudraient pas non plus torpiller ces processus. Ça arrive le lundi, c'était, je pense, programmé ainsi. Ça arrive aujourd'hui et que ça coïncide avec ce processus-là. Normalement, ils auraient pu aussi le sortir avant ou après, mais ça arrive, c'est une coïncidence. Il n'y a pas de rapport que l'Union européenne puisse torpiller aussi le processus pour lesquels, je crois, beaucoup d'États en Europe voudraient que Congo aille là-bas. Mais aussi, un élément que nos auditeurs devaient comprendre, en dehors de ce processus national qui devrait réunir le M23 AFC et le gouvernement congolais ensemble, il y a un processus régional pour lequel, je pense, les Congos et les autres pays, surtout le Rwanda, devraient se retrouver. Et d'ailleurs, on peut le voir dans la plupart des résolutions des Nations Unies, tout comme où on demande à des pays, à des forces armées non invitées de quitter le territoire congolais, y compris des résolutions qui demandaient aussi à la rébellion de quitter ces terres. Donc, c'est une question qui doit être vue à deux niveaux. Le niveau national, ce processus-là, comment est-ce qu'il est piloté? Et c'est mieux que le président angolais ait pris ce processus parce que, en plus de ce rôle qu'il joue, il est en Union africaine, il joue un rôle prépondérant. Et on ne doit pas non plus oublier que lorsqu'il a pris les rênes, je pense, à l'Union africaine, dans son discours, le président angolais a dit des choses assez importantes sur lesquelles je crois qu'on n'y revient pas. Et pour lui, il n'était pas possible pour lui que le Congo, l'Est du Congo, vive dans une sorte de balkanisation. Je ne dis pas que les rebelles sont en train de balkaniser, mais ça, c'est le président angolais. Mais ensuite, qu'il ne voulait pas qu'on change un régime légalement établi. C'est pour ça que ces discussions, c'est des moments où des Congolais vont se parler. Et s'il y a des décisions à prendre, il y a des institutions qui sont au Congo. Et ces institutions devraient être mises à profit parce que, comme on peut le dire, Guimaté, beaucoup des leaders de la rébellion, notamment aujourd'hui Bertrand Bisimwa, qui est sanctionné encore aujourd'hui, il est sanctionné plusieurs fois. Est-ce que, et aussi au Congo, je pense, il y a une procédure contre lui du fait qu'il a pris les armes contre le pays. Et donc, toutes ces questions, ce que vous allez amener, c'est là pour discuter.
Merci.
Et ces questions doivent être discutées entre Congolais, et non seulement les motivations individuelles, mais aussi un peu plus large. Il y a des questions qui émergent où le Rwanda parle de la guerre existentielle. Et aussi, bah, c'est des discussions qui doivent rentrer. Moi, je ne déploie pas ça parce qu'il y a des éléments aussi à repenser par rapport au discours rwandais.
Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. On va commencer à conclure. Professeur Moïla Tchiembe, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, spécialiste des relations internationales. Et vous allez conclure. Hein. À votre avis, quelles pourraient être les marges de manœuvre, n'est-ce pas, du président João Lourenço pour faire revenir les M23 autour de n'est-ce pas, faire revenir les M23 dans ces processus de Luanda.
Comme Congolais, vu le sang qui n'a cessé de gouler à l'est de la République, nous avons imploré le président de la République, nous l'avons supplié de bien vouloir accepter de négocier avec le M23. Nous lui avons dit qu'il n'y a pas un déshonneur parce que qui peut le plus peut le moins. Il est le garant de la nation, le garant de la souveraineté nationale. Aujourd'hui que le président de la République nous a écoutés, nous lançons le même message à l'endroit de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est sorti du bois et qui avait expliqué ce qu'il avait à dire comme citoyen. Nous lançons le même appel à la CENCO et à l'ensemble des églises. Nous lançons le même appel à l'opposition de la République démocratique du Congo. Pour que tout soit fait, tous ceux qui ont toujours appelé à ce dialogue, sans le voir venir, de faire la pression sur le M23 et ses des leaders pour que l'intérêt supérieur du Congo soit sauvegardé, que le M23 reste à la table de la négociation, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème particulier du président Tshisekedi et des leaders du M23. C'est l'avenir de la République démocratique du Congo, c'est la menace de balkanisation qui est devant nous et le sang des Congolais qui coule tous les jours. Et comme Congolais, nous pensons qu'il n'y a pas une autre raison majeure, quels que soient les arguments du M23, quels que soient les arguments de la République démocratique du Congo, les deux parties doivent se voir à Luanda et reprendre la discussion pour sauver la République démocratique du Congo.
Merci. Merci Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Le M23 s'est retiré de ces processus, donc sans le M23, il n'y aura pas dialogue demain à Luanda. Comment vous entrevoyez la suite?
Ça reste flou, mais je pense qu'il faudrait continuer à accorder une opportunité à l'avènement de la paix. Ici, c'est aussi l'opportunité d'en appeler à la bonne foi des uns et des autres pour que ce dialogue puisse se tenir, qu'on puisse arrondir les angles de part et d'autre. Le M23, tout comme le gouvernement congolais, ainsi que toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, puissent conjuguer et converser les idées afin que on puisse taire les armes sur les terrains. Récemment, comme argumentait le professeur Aymar, nous cantonner sur des approches à discuter autour des responsabilités historiques ne nous aide en rien. Mettons sur la table les motivations immédiates des acteurs pour essayer de trouver une solution qui va être durable. Et aujourd'hui, autant les acteurs internes, ils sont très bien identifiés, ramenons-les autour de la table pour discuter des faits. Les acteurs extérieurs, aujourd'hui, le conflit du Congo de plus en plus est en train de gagner une certaine considération. Ramenons ces gens-là et discutons des faits immédiats tout en privilégiant la paix.
Merci. Merci Josaphat Moussamba, doctorant à l'université de Gand en Belgique. Vous êtes chercheur congolais basé au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler, n'est-ce pas, à l'endroit du médiateur, le président Lourenço, afin de sauver le mécanisme de Luanda?
Alors, quelques recommandations que je ferai au président angolais, c'est d'abord de ne pas, pour moi, c'est de prendre ces reports d'aujourd'hui comme un élément un élément assez important sur lequel ils doivent renforcer les contacts avec toutes les parties. Comme Kinshasa n'a pas mis d'objection, je crois que le président angolais devrait aussi recontacter à travers ses services ou ses émissaires l'AFC M23, y compris ne pas mettre en dehors de l'orbite le président ougandais. Je suis persuadé que l'Ouganda peut aussi influencer les leaders de M23 à venir dans ces processus. Deuxième, c'est en dehors de contact de l'Ouganda, l'Angola devrait aussi contacter le Rwanda, parce que d'une manière ou d'une autre, cette rébellion a une dimension transnationale, et que surtout, même s'ils ne le disent pas, le Rwanda a aussi une influence là-dessus. Ce n'est pas exclusif, ce n'est pas non plus une obligation, mais c'est important que de trouver des gens qui peuvent persuader l'AFC à venir. C'est aussi important de regarder dans quelle mesure tenir compte de leur diversité, non seulement inviter les M23, mais inviter leur coalition, parce qu'ils sont tous ensemble, cette coalition. Ils ont été sanctionnés tous, y compris Kone Nanga. C'est important de regarder dans quelle mesure ils vont tenir compte de cela.
Merci. Ensuite, allez-y, rapidement.
Enfin, je pense que le Congo devrait aussi maintenir sa position, d'ouverture, comme il a déjà fait. Le président de la République est allé au-delà, et ça, c'est un élément à féliciter et à encourager. Deuxièmement, c'est le Congo va maintenir sa position, qui consiste aussi à maintenir à la fois ses positions militaires, donc mettre en place ce que le professeur Maïla Tiembe appelle la conduite diplomatico-stratégique, c'est-à-dire que on négocie, mais on ne baisse pas les positions, on les conserve à partir du moment où des choses peuvent basculer sur terrain. Donc, on négocie, entre-temps, on reste sur l'équilibre.
Merci.
Je pense que c'est un élément qui peut marcher.
Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Moïla Tiembe, Monsieur Henri Pacifique Mayala et Monsieur Josaphat Moussamba. Merci également à Kéline Couté qui était à la réalisation de cette émission. Nous en profitons, n'est-ce pas, pour nous souhaiter bon anniversaire, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Kéline Couté était assistée d'Étienne Lissumbu et de Bertin Kassiama, et Jean-Claude Ntiala était à la technique avec la participation de Jonathan Fuanani, Clément Chimanga et Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci une fois de plus et bon suivi de programme sur Radio Okapi.